C'est Denis qui va ouvrir le bal. Donc Denis Tessou de l'AFP, directeur de Media Lab, et qui accompagne les journalistes autour des fact-checking. Le Media Lab, voilà, qui propose différents outils très performants. Je crois que Denis, tu vas nous en présenter deux aujourd'hui. Guillaume Kösser, bon, qui arrivera peut-être un peu plus tard, qui est directeur adjoint de la communication et de la presse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui, ça fait 6 mois, parce qu'avant, il était cofondateur d'une entreprise CIO qui proposait aussi des outils de fact-checking. Donc Charlotte Barbier, qui est ici, qui est intervenante à Cogito. Cogito, qui est une émanation de Esprit Critique. Je ne sais pas si vous suivez Esprit Critique sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est peut-être je te laisserai présenter Esprit Critique, mais voilà, c'est l'objectif, c'est d'éveiller à l'esprit critique tous les publics. Et donc Charlotte, tu es docteur en sciences de l'éducation et tu proposes des outils destinés aux établissements scolaires, aux étudiants, aux collectivités, aux entreprises. Et enfin, Stéphanie Pourquier-Jacquin, qui est maître de conférence au CNAM, spécialiste des pratiques de médiation culturelle envers les jeunes publics et en EMI aussi maintenant, depuis quelques années, et qui propose aussi, qui accompagne des formations académiques sur les outils, notamment les éducateurs socioculturels dont on parle un petit peu moins, et des médias alors en terrain, je ne sais pas ce que c'est, tu me diras exactement ce que c'est, surtout dans la région de Bretagne. Voilà. Donc je vais introduire cette table ronde par le fait que la thématique, vous pourrez la voir, c'est sur les formats courts, les alliés pour la formation de l'esprit critique. Donc effectivement, aujourd'hui, l'esprit critique circule drapé dans l'éclat des écrans, dans les codes qu'elle a repris à son compte, comme on l'a dit, des industries culturelles et créatives, pour mieux manipuler, convaincre par la force de la fascination. Donc elle se part, elle parle fort, se répète en boucle, produit des chiffres, des images, des vidéos, des sensations fortes même. Elle s'affirme de manière outrancière à travers certaines figures évidentes, se pose en juge, condamne, discrimine, colonise, ghost de manière impunito-ludique. Donc son pouvoir le plus redoutable est aussi d'éloigner de la vérité vers ce qu'on appelle, c'est devenu un terme courant aujourd'hui, la post-vérité, en se déguisant sous les apparats du cool, du chill, du drôle. Mais aussi de formes de folklorisation et d'un, ce qu'on appelle aussi d'un nationalisme ludique, en fabriquant des scènes avec un décor assez redoutable et efficace. Donc l'abondance de la désinformation repose sur aussi des analyses approximatives, fausses, où plus rien n'est hiérarchisé derrière ce qui est de plus en plus visible. Ce qu'on pourrait appeler les faussaires de l'ombre, donc, sont ceux qui produisent des fake news avec un but précis. Ils savent pertinemment qu'un mensonge spectaculaire voyage et est beaucoup plus efficient qu'une vérité nuancée qui prend du temps. Qu'alimenter la peur de l'autre, du déclassement, de la différence, de l'obscénité numérique est beaucoup plus rentable. Donc la désinformation aussi, et c'est ce qu'on remarque de plus en plus, elle n'est pas que outrancière, c'est ce qui est plus visible, elle excelle aussi en produisant des discours construits qui reprennent les exigences du discours scientifique ou de vérité, et c'est là où l'esprit critique devient extrêmement important aussi. Elle enferme le citoyen au milieu d'une confusion mentale, de ce qui semble éclairant, évident, de ce qui est visible devient convaincant. Donc, à force de confusion, l'individu s'épuise, renonce et préfère la force du slogan à l'effort du discernement. Il croit choisir, se retrouve librement, pensant librement, enfermé dans des bulles d'information qui parfois le radicalisent. Donc, une démocratie, certes, est là pour accueillir le débat, le désaccord, mais pas pour accueillir la fabrique d'une ignorance répétée. Et c'est là où nous intervenons, éduquer en retournant les industries culturelles et créatives contre ceux qui les exploitent au service d'idéologies on peut le dire, douteuse, éduquée, éclairée pour rendre moins manipulable, pour apprendre à douter, à comparer, à vérifier. Et ce qui nous lie, je pense, aujourd'hui, et ce qu'on va essayer de démontrer à travers les outils tout au long de cette journée. Ces outils créés pour accompagner les différents publics, ceux qui fabriquent ou ceux qui reçoivent l'information, voilà ce qu'on va essayer de débattre aujourd'hui, de présenter, parce que ce sont des actes de résistance à notre niveau, des armes pour la démocratie. C'est une protection contre les prédateurs de conscience qui oblige à s'arrêter, à déceler les illusions. Et l'éducation par les industries culturelles et créatives, c'est l'école du discernement. Une urgence, on l'a bien annoncé, hein, qui est quotidienne, mais aussi dans le calendrier politique, face à l'ampleur du défi. Et si les institutions semblent parfois des artisans lents contre les industries numériques surpuissantes, le fameux David contre Goliath, eh bien, on sait, chacun à notre niveau, qu'il faut continuer, parce que chaque conscience éveillée demeure une victoire. Alors, voilà, continuons, et c'est l'objectif de cette journée aujourd'hui, continuons ce travail où chacun, chacune, essayons de lutter, d'accompagner. Continuons, finalement, à prendre ces outils ludiques issus des industries culturelles et créatives au bénéfice de l'esprit critique, sans leur laisser leur légèreté initiale, mais en prenant ce qui fait leur force, leur versant pédagogique accessible et participatif. Pardon. Donc, Denis, est-ce que tu veux venir ici ou...
Pour les slides.
D'accord.
Et pas de Quai d'Orsay.
D'accord, pas de Quai d'Orsay, donc tu... Je te laisse la parole ouverte pour présenter tes outils. Est-ce que tu as besoin du micro ?
Bonjour à toutes et à tous.
Ça marche ?
Oui, ça marche. Parfait. Bienvenue à l'AFP. Donc je suis le régional de l'État, donc je suis responsable du Media Lab à l'AFP. C'est une petite unité de recherche et développement. On travaille essentiellement, alors moi je suis journaliste, mes deux collègues sont ingénieurs, et on travaille depuis longtemps, depuis presque 20 ans, dans des projets européens, essentiellement sur la technologie de l'information et de la communication, donc plutôt dans l'informatique. Donc on est au carrefour entre l'informatique et le journalisme. Personnellement, j'ai une casquette de plus. Je fais une thèse en infocom à Nanterre, sous la direction de Martha Severo et de Dario Compagno, sur la désinformation, donc sur les stratégies des plateformes dans la lutte contre les infox. Et je suis en train de rédiger.
Forza.
Voilà, c'est ça. Mes week-ends sont occupés.
C'est plus long qu'une dépêche.
C'est beaucoup plus long qu'une dépêche. Et plus long qu'un livrable pour la Commission européenne. Alors, je vais vous parler donc d'outils qui permettent de fabriquer des objets qui avaient une dimension ludique dans l'enquête et comment on passe de l'enquête sur des fausses images, notamment, à la preuve par l'image. Alors, je vais commencer par un exemple que j'ai eu la chance, en quelque sorte, de fact-checker. Dans mon activité, non seulement on conçoit des outils pour les fact-checkers, mais notre équipe est intégrée dans le plateau de l'investigation numérique à l'AFP. Et on intervient tout le temps en support, c'est-à-dire que les fact-checkers partout dans notre réseau, on a des fact-checkers partout dans le monde, on a plus de 120, 130 dans 80 pays, et ils nous sollicitent très très régulièrement pour les aider à prouver que tel ou tel contenu est lié, notamment, c'est un des sujets prépondérants actuellement. Et voilà, c'est un des cas que j'ai eu à traiter. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'était en République tchèque, hein. C'est une de mes collègues fact-checkers à Prague, qui a vu passer ce genre de choses. C'est pas la première fois qu'on voit des choses qui viennent de Grèce qui finissent par atterrir en Europe centrale. Et donc l'image que vous avez là en face de vous, c'est le porte-avions Gerald Ford qui était dans l'est de la Méditerranée pour soutenir les efforts de guerre israélo-américains. Et en fin de compte, il a eu une avarie avec un incendie dans la blanchisserie. Et à un moment donné, il a fait une pause et ils l'ont mis hors circuit pendant quelques jours. Et ces photos ont commencé à sortir, alors à la fois sur les comptes Instagram en Turquie, sur le canal YouTube du Times of India, donc des médias ont repris ce genre de photos. Et on le retrouve également parmi les premières images indexées par Google sur le site russe, donc le Facebook russe, entre guillemets, le V-Contacteux. Donc ça pullulait aussi dans la sphère russophobe. Donc tous les gens qui étaient intéressés en fin de compte par ce revers quelque part américain, en tout cas c'est ce que l'image tente à faire croire, ont publié, donc ça a été pas mal publié. Alors si on commence toujours en fact-checking par examiner l'image, c'est-à-dire vraiment être sûr, ouais, regarder bien l'image pour voir est-ce qu'on décèle des anomalies, est-ce qu'on décèle des choses qui paraissent bizarres dans l'image. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette... La première question, c'est est-elle réelle ou fausse? Mais il y a une deuxième question qui est imbriquée aujourd'hui en matière de fact-checking, c'est est-ce que c'est de l'IA ou pas? Donc ça revient très fortement depuis pas mal de mois. Donc là, vous avez le porte-avions donc, avec plusieurs, deux incendies qui sont déclarés, hein, sur la tour principale et l'autre sur le pont, et avec un bateau qui intervient et puis des lance-incendies. Alors on a le principe de base en vérification des images, même avec l'IA générative, ça continue à être la recherche par similarité d'image. Donc on va aller sur les moteurs de recherche et essayer de voir où est-ce que cette image a été indexée, est-ce qu'elle a déjà été indexée dans le passé, est-ce qu'elle a déjà été publiée quelque part. Et quand on fait une recherche par similarité, on retrouvait beaucoup de publications avec cette image-là qui se trouve être une image de l'AFP. Alors on a un petit outil, alors il est plutôt en interne celui-là, mais qui nous permet d'aller retrouver les métadonnées de l'image par similarité et par tatouage numérique des images. On arrive à retrouver la légende de l'image et pour savoir où est-ce que cette photo a été prise. Donc cette photo est prise le 26 février lors d'une escale du porte-avions américain en Crète. Et donc on a une similarité a priori entre ces deux images d'après les moteurs de recherche. Et du coup, j'en arrive à l'outil qu'on a développé il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle CheckGIF et qui permet de fabriquer une preuve par l'image. Donc c'est on va envoyer les deux images, l'image suspecte, pardon. On va envoyer l'image suspecte et l'image, alors originale ou pas. Il y a des chercheurs allemands, Gisela Fermann notamment à Bonn, qui ont théorisé sur ce qu'ils appellent la copie originale, qui peut paraître en français un oxymore, mais en fin de compte, ça traduit le fait que sur Internet, vous avez des milliers de copies, parfois, d'images, et vous ne savez jamais, après c'est assez difficile de savoir est-ce que c'est vraiment le fichier original, est-ce que c'est vraiment l'image originale, c'est très souvent des copies. Et donc ici, on met l'image suspecte supposée originale, et on arrive à fabriquer donc, c'est un outil mathématique qui va, de l'ENS Paris-Saclay, j'ai une diapo après qui le montre, qui va... trouver tous les points semblables et les points dissemblables dans les deux images et qui va les repositionner dans le même repère mathématique, ce qui permet nous permet après nous derrière de fabriquer un GIF animé ou une vidéo en MP4 qui montre la juxtaposition de ces deux images, en sémiotique on dirait une interconicité, entre le faux et l'original quelque part. Et donc ça permet de dialogue entre les deux images, ça permet de faire surgir toutes les modifications qu'a subi l'image au cours de la manipulation. Donc, ça permet de faire quelque part, c'est pas le jeu des 7 erreurs, parce que c'est jamais 7 erreurs, ça dépend de qu'est-ce qui a été modifié dans l'image, ça peut être des modifications extrêmement ténues, comme j'ai un exemple tout à l'heure, comme des modifications extrêmement importantes de l'image. Là, ici, vous voyez qu'on a beaucoup de modifications, il y a un bateau qui a été rajouté, un bateau pompier qui a été rajouté, il y a les colonnes de fumée, les flammes, les lances à incendie, et puis l'image a été également recadrée. Et vous avez un étrange losange en bas à droite de l'image qui est la signature en fin de compte de Gemini qui est le moteur d'intelligence artificielle de Google.
Ouais, je vais montrer.
Donc c'est basé sur une homographie mathématique, c'est-à-dire qu'on envoie les deux images et ça va repérer c'est tous les points qui sont semblables, les outliers c'est tous les points qui sont dissemblables et c'est ça qui va permettre. Le programme va définir est-ce qu'il y a suffisamment de similarités pour trouver, pour joindre les deux images, en fin de compte, pour établir un lien entre les deux images. Donc, pour revenir ici, je ne l'ai pas expliqué, mais dans ce genre d'image, GIF, en fin de compte, le GIF, alors le MP4 le fait, mais à condition de faire une boucle dans le MP4, enfin dans la vidéo, Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre tout ce qui a été soustrait à l'image originale et tout ce qui a été rajouté à l'image originale. Donc là, on a le littoral crétois qui a disparu, qui a été remplacé par un horizon. On a un bateau qui a été rajouté par-dessus. Le bateau, le remorqueur qui est juste en dessous, a été à moitié coupé par le propre, par le recadrage. Donc on a toutes ces dimensions-là, le rajout des lanceurs incendie, le rajout des flammes et de la fumée. Donc tout ça a été modifié dans l'image. Donc tout ce qui a été soustrait, tout ce qui a été rajouté. Et il se trouve que quand on voit le logo de... Alors on peut le tester sans qu'il y ait le logo évidemment de Gemini, parce que la plupart des faussaires enlèvent le logo de Gemini avant de diffuser l'image. Mais ça peut permettre de savoir donc, que ça a été fabriqué par Google AI. Donc ça, c'est une vue du détecteur de Google DeepMind. Mais maintenant, ils l'ont intégré dans Gemini directement. Donc dans Gemini, vous pouvez demander est-ce que cette image est d'IA, et Gemini va vous répondre parce qu'il va interroger du coup le détecteur de watermarking, donc ce qu'on appelle le tatouage numérique en fin de compte. C'est une modification de l'image dans les hautes fréquences, c'est pas visible, mais ça laisse des traces. Vous voyez, les traces, elles sont symbolisées ici par les blocs de pixels en bleu. Et c'est toutes les traces qui sont résiduelles ici dans l'image qui permettent de conclure que l'image a été fabriquée par Google AI. Le même système SynthID vient d'être adopté par OpenAI et ils ont publié leur détecteur il y a 2 jours. Il y a un détecteur aussi sur OpenAI qui permet aussi d'aller vérifier les images qui ont été fabriquées par tous les outils d'OpenAI. Donc là, un certain nombre de grands acteurs mettent des garde-fous qui permettent de vérifier a posteriori que les contenus ont été fabriqués par leurs outils. Ce qui n'est pas le cas évidemment de milliers d'autres générateurs qui circulent et qui n'ont pas, ce genre de tatouage numérique. Mais c'est la formule là, comment dire, c'est en matière de vérification, c'est ce qu'il y a de plus robuste en fin de compte aujourd'hui, c'est le tatouage numérique. C'est-à-dire qu'il y a un autre standard actuellement qui sort qui s'appelle C2PA, c'est Content Provenance, mais en fin de compte c'est des métadonnées qui sont enlevées systématiquement sur toutes les plateformes. Des métadonnées textuelles comme les métadonnées qu'on peut mettre nous dans les agences de presse. Donc le tatouage numérique, lui, est plus robuste. Avant d'avoir ces outils-là, en fin de compte, on a toujours des outils forensiques. Donc l'outil forensique, c'est des outils d'analyse mathématique du fichier numérique pour savoir s'il y a des altérations au niveau du traitement du signal. Alors, ce qui est important de connaître quelque part, c'est que ces outils-là travaillent sur l'intégrité du fichier numérique, c'est-à-dire sur le traitement du signal, ce qui n'a rien à voir avec la sémantique de la photo. Ça n'a rien à voir avec le message qui est véhiculé par la photo. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des fichiers numériques qui sont trafiqués sans que le message ait été altéré, parce que l'image a été augmentée, par exemple, avec de l'IA. Donc tout ça, ça pose énormément de problèmes complexes, d'autant plus que pendant 50, 60 ans, toute la science forensique était basée sur le format JPEG, et qu'aujourd'hui, toutes les grandes plateformes poussent leur propre format. Google AWP, vos smartphones, si vous avez du Apple, ils utilisent du HEIF ou HEIC. Donc tous les formats sont en train de changer pour plus de compression, plus de couleurs d'un côté, mais beaucoup plus de compression et des objets plus petits qui s'affichent plus rapidement sur les plateformes les téléphones portables. Donc là, on est sur la détection classique forensique qui montre qu'effectivement, il se passe quelque chose au niveau des volumes de fumée et un peu au niveau de l'incendie, mais qui ne repère pas, par exemple, qu'il y a un bateau supplémentaire qui a été rajouté, ou qui ne repère pas les jets d'eau. Et donc, c'est une détection qui est partielle, mais qui est soumise à l'interprétation de la personne qui reçoit l'image, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication autre que la signalisation en verbal, ici, pour dire si cette partie de l'image a été altérée, a été manipulée ou modifiée. Et par contre, avec le CheckGIF, vous avez la totalité de toutes les manipulations qu'a subi l'image. D'autres exemples de CheckGIF, depuis plusieurs années déjà. L'exemple de mer, c'est intéressant aussi parce que c'est également une image qui a été fabriquée par l'IA, comme celle que je vous ai montrée. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu plusieurs cas comme ça sur des hommes politiques dont l'expression faciale a été modifiée par l'IA et on a une distorsion géométrique de l'image. C'est-à-dire qu'on a, au lieu d'avoir une manipulation type Alors, j'aime pas le mot Photoshop parce que j'utilise plus GIMP, qui est le GIMP.org, qui est le logiciel libre du le Photoshop du livre, de l'open source. Mais ça n'a pas été modifié sur le photo plan. Ça a été modifié, il y a une distorsion d'image à partir des modifications faites par l'IA. Donc là, c'est Friedrich Merz dans un discours de réouverture de la synagogue de Munich, dont l'expression faciale a été dramatisée et notamment retweetée par l'AFD en Allemagne. Celle du milieu, c'est un classique de la désinformation russe avec la tentative de racoler le mot nazi au mot ukrainien et donc de modifier, c'était un maillot de basket qui a été modifié à partir de, voilà, pour mettre une basiska. Et l'exemple de droite, c'est l'exemple qui nous a donné l'idée, alors ça c'est un fact-check en Slovaquie, qui nous a donné l'idée de fabriquer cet outil CheckGIF, parce que c'est une modification. Donc la photo, elle représente l'ancienne présidente de Slovaquie qui s'appelle toujours Susana Čaputová, avec son homologue de République tchèque, Miloš Zeman. Et son expression faciale a été très légèrement modifiée. En fin de compte, elle montre un peu plus de dégoût vis-à-vis de son interlocuteur que dans la vraie photo. Quelque part, c'est juste les sourcils droits français et l'expression des lèvres la moue a été accentuée. Donc on est sur une modification extrêmement faible, mais que CheckGIF peut permettre de révéler, alors que si quand on regarde les deux images côte à côte, il faut passer du temps, il faut avoir une certaine expérience de travailler avec des photos. Et là, du coup, je vais faire je vais profiter qu'on m'a donné un peu plus de temps pour faire un clin d'œil à Arnaud, parce que Arnaud m'avait interpellé dans une conférence précédente dans Infox sur scène, justement en disant pourquoi tu ne mets pas original en plus de faux. Et du coup, là, c'est sur cette image, comme sur celle que je vous ai montrée tout à l'heure, où j'avais déjà original, hein, puisqu'on l'a rajouté. En fin de compte, il n'est pas dans les outils qu'on a actuellement qui sont à votre disposition. Il est dans la prochaine version parce que c'est la version de test qu'on a fait la semaine dernière. Celle-là. Donc on a rajouté ça grâce à cet exemple-là et ta réflexion il y a 2 mois. Du coup, là ici, on est dans ce cas-là aussi parce que cette photo-là a été prise par l'agence tchèque CTK et on avait exactement la situation. On pensait que c'est dans un sommet de Vidgrad qui est un petit groupe économique, politico-économique entre la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et l'Hongrie. Et on sait exactement l'origine, quel est le photographe, où ça a été pris, où c'est publié, etc. Et donc on a vraiment ces données importantes pour définir l'originalité de la photo. Après, en matière d'images sur Internet, cette originalité, c'est très rare qu'on arrive à la prouver. Et d'un point de vue fact-checking, comme on travaille plutôt sur la faillibilité, c'est-à-dire sur le fait de prouver que c'est faux, que l'image suspecte est fausse, on s'arrête là très souvent. On ne va pas jusqu'à très souvent, à moins que ça soit vraiment une photo, ça soit évident que la photo originale provienne d'une agence reconnue ou d'une source reconnue. On établit rarement, par exemple, pour la photo de Zelensky, et celle de Merz, elle provient d'une vidéo. Une vidéo a plusieurs prises de vue différentes, et elle a la photo originale, enfin l'image clé originale, celle-là, elle est une image clé de la vidéo, en fin de compte. Et donc, on n'est même pas sûr que c'est vraiment cette image-là qui a été utilisée par les faussaires pour fabriquer le faux avec Nano Banana, qui est le moteur de génération d'images de Gemini. Et donc, ça pose. Alors, ce problème-là de l'originalité, il est posé notamment par Umberto Eco dans Les limites de l'interprétation sur quand on veut une image, quand on fait quelque chose qui est un objet qui est contrefait, on va le comparer à un objet original. Et Umberto Eco dit que. Le véritable problème collectif, c'est de s'assurer que l'objet original est authentique. Or là, dans ce cas-là, oui, on peut l'assurer, mais c'est un cas rare, en fin de compte. La plupart du temps, on est sur des images dont on ne sait pas vraiment la provenance. On sait qu'elles ont une antériorité, qu'elles ont été publiées auparavant. On sait qu'il y a un lien avec l'image qui est suspecte, et ça nous suffit pour démontrer bien souvent que l'image suspecte est fausse. Mais si on va aller plus loin, évidemment, il vaut mieux essayer de trouver l'origine de cette image, parce que ça permet une démonstration. Une enquête plus précise, une démonstration plus complète, mais c'est chronophage d'avoir, en plus de démontrer que c'est faux, d'avoir à aller retrouver vraiment la photo originale qui a servi à ça. Je vous montre la même chose, mais en vidéo. J'ai pas mis le... Super. un exemple de un très bel exemple de mesure active russe dans la guerre avec l'Ukraine. Un résumé rapide, c'est soi-disant trois supporters ukrainiens arrêtés pendant la Coupe du Monde du Qatar pour avoir caricaturé, enfin mis des insignes nazis sur la mascotte de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Et ça, c'est un fact-check qu'on a, enfin c'est un prototype de fact-check que j'ai fait dans le projet Vera, avec l'idée de déconstruire le faux quelque part et d'insérer toutes les preuves de falsification. Au départ, déjà, c'est partagé par Vladimir Soloviov, qui est le propagandiste en chef du Kremlin. 295 000 vues sur Telegram. Donc déjà, ça... Ensuite, si on fait une recherche sur cette image-là, on la retrouve chez Getty. Et c'est une image, non pas de la Coupe du Monde du Qatar, mais de la Coupe du Monde des moins de 19 ans à Lodz, en Pologne, en 2019. Donc là, on peut fabriquer un check-gif, le mettre en vidéo MP4 et l'insérer dans la vidéo. Là, on a des outils forensiques qui détectent parfois des choses, mais ça reste un peu... Il y a un petit flou dans la détection. Et là, le deuxième épisode, l'arrestation, c'est un documentaire sur la police du Qatar fait par une autre chaîne de télévision qui s'appelle Al Rayan et qui est diffusée sur YouTube 10 ans auparavant. Donc c'est des bribes comme ça qui sont reprises. Et vous avez... Alors, on l'a raté là peut-être à la fin, mais je dois l'avoir ici à la fin. Ah, pardon. Je peux mettre en défense, c'est peut-être... Et Al Jazeera qui a publié un démenti pour dire qu'eux n'ont jamais publié cette vidéo. Donc la vidéo, elle utilise les codes graphiques d'Al Jazeera, elle utilise des codes, y compris la musique moyen-orientale, elle utilise différents faux à l'intérieur pour fabriquer un montage, pour faire croire aux gens que les supporters ukrainiens ont fait du vandalisme pendant la Coupe du Monde du Qatar. Donc ça vous montre un peu l'étendue et la... Le degré de raffinement quelque part que les Russes, raffinement jusqu'à un certain point, parce que ni le Qatar ni la Russie participaient à la Coupe du Monde du Qatar, donc on peut se demander déjà qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Mais c'est juste pour... c'est la diviser essentiellement... alors à la fois interne et externe, parce qu'ils l'ont fait en anglais quand même, mais c'est aussi la diviser interne évidemment vis-à-vis de la population. Donc là, c'est les deux, dans cette vidéo, c'est deux check-gifs à l'intérieur. C'est à la fois la vidéo de l'arrestation et la photo du match de football, qui sont des sorties, en fin de compte. Deuxième clin d'œil pour Arnaud et sa doctorante Tatiana Avila.
Et ce sera le dernier exemple, parce que...
Oui, bien sûr.
Merci.
Je voulais faire un exemple sur le... Alors, on a eu la chance, de facto, d'avoir une conférence par Arnaud et Tatiana Avila sur le poids de la religion dans la désinformation, le poids des croyances dans la désinformation. Et ici, vous avez deux très beaux exemples récents. L'un posté par Donald Trump lui-même, hein, celui-là, sur son réseau social. Alors, ça crée un tel tollé qu'il a fini par l'enlever. La deuxième, c'est très récemment, là, c'est des images de propagande iranienne. Ils sont extrêmement efficaces. Hein. J'ai fait un petit peu de sondage là-dedans et on était... avec une centaine de comptes, ils ont fait plus de 54 millions de vues. Hein. Pas seulement avec cette image, avec plein d'autres images.
Avec les
Legos, bien sûr. Voilà. Et on a des outils qui permettent donc de vérifier les images synthétiques. Alors ces deux images, il n'y avait pas tellement de doutes sur le fait qu'elles étaient synthétiques, sauf que quelque part dans une enquête, si on cite la méthode scientifique de Peirce en sémiotique sur la fixation des croyances, la méthode scientifique elle permet au moins de démontrer ça, c'est de l'IA. Donc on ne reste pas sur l'image qu'on a vue passer, qui peut rester dans le subconscient et qui en fin de compte n'a pas été quelque part démentie. Alors que là, on arrive, y compris ces images-là, à les démentir. Même si nos outils ont plutôt été entraînés sur des images de photoréalistes. Ces outils-là, ils ne sont pas parfaits, hein, parce que là, autant sur l'image iranienne, j'ai trouvé tout de suite, après on a tout de suite une détection. Par contre, sur l'autre, il a fallu chercher la meilleure résolution possible encore disponible sur Internet, parce que les faussaires vont publier les images et vont les enlever ensuite. C'est assez fréquent qu'on voit les premières images indexées par les moteurs de recherche qui disparaissent. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui vont être détectées en premier, parce qu'elles conservent des traces forensiques, des traces laissées par les générateurs qui permettent de faire ça. Donc tous ces outils-là que je vous ai montrés sont disponibles dans notre plugin de vérification. Donc ça s'appelle aussi InVid, WeVerify, c'est le nom de tous les projets qu'on a fait européens ces dernières années. C'est 160 000 utilisateurs dans le monde, 2000 utilisateurs pour les outils avancés. Donc il faut s'enregistrer pour avoir accès aux outils avancés. C'est ouvert pour les journalistes, pour les fact-checkers et pour toute la communauté académique qui travaille sur la désinformation. On peut évidemment l'ouvrir aussi pour les enseignants. On ne partage pas à tout le monde parce que c'est des outils qui permettraient de fabriquer des mèmes à poison et qui permettraient donc de fabriquer aussi de la désinformation si c'était mal utilisé. Et pour finir, ma présentation, toutes les diapos que vous avez vues, est disponible ici sur un diaporama sur le web, u.fp.com/defacto-opraxi. Je vous ai mis le lien sur un papier, un chapitre de la revue Écran, qui a été coordonné par Aurélie Ledoux à Nanterre. Le papier en lien, là, c'est photographie manipulée, la preuve par l'image GIF. Et le 11 juin, je crois, sort un bouquin où j'ai aussi un chapitre, et cette fois-ci sur les images synthétiques, toujours coordonné par Aurélie Ledoux. Et vous avez les liens aussi qui sont sur la table. Merci beaucoup.
Merci. On va garder les questions par la fin, on aura un petit moment de discussion. On enchaîne tout de suite avec Charlotte Barbier.
Pour les slides, on peut commencer.
Oui, tes slides sont prêts.
Ils sont prêts, ok.
Ouais.
Ok, super. Du coup, j'ai mes notes là, on va essayer de s'arranger. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je viens représenter Cogito, qui est un organisme privé dédié à la formation, l'éducation à l'esprit critique. Et donc on crée des ressources pédagogiques, des outils, notamment un parcours en e-learning sur cette thématique, mais pas seulement. On a aussi créé des webinaires à destination de collectivités, des webinaires pour des entreprises, des conférences de sensibilisation, des ateliers en entreprise et bientôt des formations professionnelles. On va revenir sur la slide d'avant, parce que d'abord je présente et ensuite je vous fais signe. Je pense qu'on va se faire comme ça. Donc on fait pas mal de choses et je vais surtout vous parler de notre parcours en e-learning. Donc je suis Charlotte Barbier, je suis directrice pédagogique de Cogito. Mais moi, durant la création de ce parcours, j'avais plutôt un rôle de conceptrice pédagogique. Et donc c'est ça dont je vais vous parler dans cette présentation. Je suis également docteur en sciences de l'éducation et de la formation et j'ai fait ma thèse sur l'éducation à l'esprit critique à l'Université Paris-Cité. Donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Cogito. Et moi, je me suis surtout intéressée aux conceptions, aux pratiques des enseignants sur cette thématique. J'avais également un volet qui s'intéressait à l'usage de vidéos YouTube par des enseignants, comment ils l'utilisent comme une forme d'auto-formation sur cette thématique. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter à la fin de cette table ronde. Et donc là, je voulais donc vous parler surtout de notre parcours en e-learning pour vous montrer la place que prennent les formats courts dans ce parcours, mais également les réflexions qu'il y a eu en interne sur comment il a été créé, pourquoi il a cette forme-là, les liens qu'on peut faire avec les industries culturelles et créatives. Et donc là, pour comprendre le projet, il me semblait nécessaire d'évoquer son origine. Donc comme l'évoquait Pauline, en fait, Cogito vient de la chaîne YouTube, qui est également sur Instagram et TikTok, qui s'appelle L'Esprit Critique. Cette chaîne, elle a été fondée par Alexis Bellas et Nathan Obino. Nathan, qui est toujours son réalisateur et son monteur. Ils ont créé cette chaîne en 2022. Et au moment du lancement de Cogito, L'Esprit Critique comptait plus d'un million d'abonnés sur Instagram, 670 000 sur TikTok, 400 000 sur YouTube. Ça a monté depuis là, j'ai vu hier, on était presque à 600 000 sur YouTube. Et cette chaîne, L'Esprit Critique, elle produit toutes les semaines ou presque une forme d'analyse de l'actualité politique ou médiatique sous forme de vidéos courtes, donc des vidéos qui font environ 2 ou 3 minutes, qui commentent cette actualité ou qui essayent d'analyser un fait médiatique, afin d'essayer de favoriser l'esprit critique des spectateurs et des spectatrices. Donc pour donner un exemple concret pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette chaîne, on avait en janvier 2025 une vidéo qui parlait du salut nazi d'Elon Musk, où le but c'était d'expliquer quel sens on peut donner à ce geste, pourquoi est-ce que Elon Musk a fait ce geste, qu'est-ce qu'il essaye de dire sans dire, et c'est là tout l'angle de cette vidéo, comment on peut dire, faire passer un message en politique sans donner explicitement ses intentions. Et donc il faisait le parallèle avec Alexis Bellas, avec d'autres, comment dire, avec d'autres personnages politiques, par exemple Macron, qui avait assisté à la messe du pape à Marseille, en se disant qu'est-ce que ça veut dire, là, de la même manière, comment on dit quelque chose sans le dire, et donc lui, il le résumait comme ça, en disant c'est une manière de dire coucou les catholiques. Et donc il y a aussi ce ton sur cette chaîne, l'esprit critique, un ton qui est parfois un peu, voilà, qui est à la fois sérieux dans un ethos sérieux, il est toujours donc avec cette chemise bleue, la cravate rouge. C'est aussi, Alexis Bellas, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, et donc ça se retrouve aussi, je trouve, dans l'ethos et dans ce qu'il essaye de, voilà, de transmettre à travers ses vidéos. Mais en même temps, avec des fois un langage un petit peu désuet, des expressions voilà, qui peuvent... qui sont peu utilisées, ou au contraire des expressions très récentes qui créent parfois ce décalage un peu humoristique, sans que ce soit non plus un... Voilà, sans qu'il y ait une volonté on va dire, particulièrement comique, contrairement à d'autres chaînes sur les réseaux sociaux. Donc Alexis Bellas, il s'est ensuite entouré de différents co-auteurs pour créer en 2024 un premier parcours d'esprit critique, donc c'est le terme qu'il utilisait. Donc c'était un parcours à prix libre qu'il a créé sur son site internet, et c'était une sorte de mini-formation en e-learning qui s'inspirait des thématiques qu'il traite sur sa chaîne YouTube. Donc il allait voilà, parler de qu'est-ce que c'est qu'un angle journalistique, qu'est-ce que c'est qu'un... Il fallait aussi parler de différents arguments, qu'est-ce que c'est qu'un argument d'autorité, ce genre de choses. Et il a rencontré un franc succès avec ce... Voilà, ce premier parcours qui avait aussi pour viser de financer sa chaîne YouTube et Instagram, puisque le compte L'Esprit Critique ne fait aucune opération de sponsoring. Donc le financement de cette chaîne vient uniquement des abonnés qui font un financement participatif via des plateformes comme Tipeee qui permettent de rémunérer des créateurs de contenu via des dons. Donc là, c'était une autre manière de se rémunérer avec ce parcours. Donc suite au succès, il y a eu un financement participatif qui était en fait une campagne de préachat qui a permis de créer Cogito. Donc cette campagne a eu lieu en 2025. Ça a commencé en 2024. Cette campagne, elle s'est inspirée du succès pour dire, en fait, on voudrait aller plus loin. On va créer un parcours de 20 heures. Enfin, je crois que c'était 18 heures à l'époque. Donc, au moins un parcours de 18 heures, puis un deuxième avec un différent niveau, une certification à l'esprit critique. Donc, ça a eu beaucoup de promesses, mais avec pas mal de flou sur le contenu de ce parcours. Et avec l'idée donc d'essayer de transmettre des notions utiles, des compétences qui permettent de nourrir l'esprit critique, de mieux analyser les informations, etc. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé Cogito, qui a été officiellement lancé le parcours en septembre 2025, et là qui a été créé par plus d'une dizaine de personnes. Donc là c'est seulement les personnes à temps plein, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui sont venues pour une aide ponctuelle. Il y a eu par exemple des personnes qui ont travaillé... un moment qui ont en renfort de l'équipe pédagogique pour faire des fiches de lecture sur des ouvrages. Il y a eu une consultante en gamification. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes. Si on compte toute l'équipe, toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin au projet, il y a eu plus de 30 personnes. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe pédagogique alors que la conception des contenus avait déjà commencé. Et c'est ensuite comme ça qu'on est arrivé sur notre premier parcours Esprit Critique initial. Donc, comme je le disais, c'est un parcours qui, au total, fait 20 heures, mais qui n'est constitué que de formats très courts. Donc il y a une forte granularité, donc je pense que c'est le terme qu'on utilise en e-learning, la granularité, c'est-à-dire qu'on part de ce grand parcours de 20 heures, mais ensuite il est divisé en 4 modules, donc en 4 grandes parties thématiques que je vous présenterai ensuite, puis chacune est scindée en 3 chapitres, chaque chapitre est divisé en leçons, et les leçons en petites activités très brèves qui font entre 30 secondes et 5 minutes. Donc une activité, ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, une infographie, ou bien quelque chose de pratique, un QCM, un swipe. Donc là, on s'est inspiré de des pratiques sur les applications de rencontres, où on va à gauche, à droite. Et donc là, c'est un vrai faux. C'est une forme de QCM, mais un peu plus ludique. On dit, si c'est vrai, je vais à droite, si c'est faux, je vais à gauche, etc. On a de l'ordonnancement. Donc ça, c'est juste quand il faut classer de 1 à 5, par exemple, classer ses sources de la plus fiable à la moins fiable, classer ses affirmations de la plus factuelle à la moins factuelle. On a des scénarios à branchement, donc c'est l'histoire dont vous êtes le héros. On commence, tiens, je suis face à cette information, qu'est-ce que je fais? Je regarde la source. Non, d'abord je lis le texte en entier. Bon, qu'est-ce que vous faites? Tiens, je lis le texte en entier. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Voilà, et selon les choix qu'on fait, on avance dans l'exercice. On a aussi des phrases à cliquer. Par exemple, on va mettre un texte avec tout un, qui contient un ensemble d'informations, un ensemble d'informations, et qui est en général des textes authentiques. Puis on va essayer de repérer, bah, tiens, où est-ce qu'il y a des sources dans ce texte? Puis à quels endroits est-ce qu'on a des... Donc il faut les cliquer. La phase d'après, c'est de repérer toutes les affirmations qui nécessiteraient une source, mais qui n'en ont pas. Et donc là, ça permet aussi de sensibiliser à la présence ou non de sources et d'informations qui sont peut-être un peu bancales. Notre type principal, c'était les 15-25 ans. Mais finalement, je dirais même les cibles, je l'ai mis au pluriel, parce que les 15-25 ans, finalement, c'est plusieurs cibles. On avait à la fois les jeunes, avec une représentation assez générale et vague, qui sont les jeunes, donc ceux qui sont au lycée, ceux qui sont dans des établissements scolaires, mais pas seulement, et également les établissements supérieurs. Donc là, on pensait plutôt le niveau lycée. Le niveau licence. Donc on a toute cette division. Et pour essayer de s'adapter à ces publics, moi j'ai eu l'impression qu'en interne, on est surtout reparti au départ de nos propres représentations de la jeunesse, beaucoup plus que d'une étude, même si ensuite, dans un second temps, on a fait des tests utilisateurs et ça nous a confirmé qu'on était sur la bonne piste. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, on est parti sur un ensemble d'idées. Par exemple, que les jeunes ont du mal à rester concentrés longtemps. Ils ont des il y a des questions d'attention. Et donc, il faut des formats courts pour qu'ils restent concentrés. Donc, ça a orienté notre choix d'avoir que des formats courts. On a eu l'idée que les jeunes, ils sont souvent sur téléphone, donc il faut que notre site soit sur un ordinateur et aussi sur téléphone. Le fait qu'ils ont beaucoup d'usage des réseaux sociaux. Et donc, il faut qu'on intègre ça. Quand on va parler d'évaluation de l'information, on ne va pas seulement parler de la presse, on va aussi, par exemple, créer un exercice où on va évaluer la crédibilité d'une créatrice de contenu sur Instagram, en se basant sur les informations disponibles sur sa page. Et donc, partir de leur pratique informationnelle, partir aussi de nos représentations, de ce que les jeunes apprécient. Et puis, on a aussi ce double... Je vous dis cette question de la cible qui est complexe, parce qu'on avait aussi pour cible tous les contributeurs qui ont participé au financement participatif. La seule information qu'on avait sur ces personnes, qui sont 23 000 personnes, c'est qu'elles apprécient la chaîne L'Esprit Critique. Donc il fallait aussi retrouver le ton de la chaîne L'Esprit Critique. Il y avait aussi une volonté d'avoir quelque chose qui est un peu qu'on retrouve un peu ce style d'humour, qu'on retrouve aussi une dimension un peu ludique, et donc on avait toutes ces contraintes en même temps. Il fallait également, par contre, pour se distinguer de la chaîne L'Esprit Critique, avoir moins de politique. Il fallait que ce soit absolument apartisan, que on parle d'esprit critique de façon un peu plus générale. Et donc l'aspect ludique, lui, il va plutôt se manifester par des éléments graphiques et visuels. Donc là, je vous ai mis des icônes qu'on a eues. On a travaillé avec un graphiste qui était un directeur artistique, qui là nous a créé, par exemple, un pion. Et donc quand on avance dans le parcours, on avance avec un petit pion. L'image du parcours, elle ressemble, je vais vous montrer juste après, si on peut le montrer. Ça ressemble un peu à un jeu de loi, où on avance petit à petit dans les différents modules. Donc le premier... Il se concentre sur l'éducation aux médias à l'information, analyser, évaluer les informations, identifier une source, détecter des infox, essayer aussi d'interpréter correctement une image, faire attention à la surinterprétation. La deuxième, parce que nous on est sur l'esprit critique et pas seulement la désinformation, on avait aussi le raisonnement, l'argumentation, comment on analyse des discours, on a des notions de rhétorique. Puis le troisième module qui est centré sur le développement de la réflexivité. Et dans celui-là, on parle de biais cognitifs, mais également un petit peu de sociologie, de psychologie sociale. Qu'est-ce qui nous influence? Qu'est-ce qui influence mon jugement, mes croyances, mes habitudes? Pour essayer de prendre un petit peu de recul dessus. Et puis le dernier, juger et faire des choix, c'est un module qui est plutôt centré sur une forme d'initiation à l'éthique. Et donc on va s'interroger sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, comment mes jugements moraux influencent ma manière de voir le monde, ma manière d'interpréter les informations, comment mes jugements en fait se fondent sur des valeurs qui sont souvent implicites et c'est également caché des autres, etc. Donc la vue suivante, là je vous montre en fait à quoi ressemble un chapitre. Donc on avance petit à petit, on a l'introduction jusqu'à la conclusion. Donc là, c'est la première, faire confiance, mais à qui se concentre sur l'évaluation des sources. On va se poser la question de qu'est-ce qu'un fait, les sources, l'importance de leur qualité, les journalistes, qu'est-ce qu'un journaliste, qui n'est pas évident pour tout le monde, différentes figures de l'information, les témoins, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance ou non à un témoignage, question de la neutralité, les médias, la manipulation. Et en haut, là, c'est vraiment quand on rentre dans une leçon, là, c'est la leçon sur le pathos. Et bien on voit que chaque partie est courte, donc 1 minute, 5 minutes, 2 minutes, de la pratique, de la théorie. Et petit à petit, on avance dans ce parcours un petit peu comme un, voilà, avec notre petit pion comme un petit personnage qui jouerait à un jeu. Et donc j'en viens vraiment là à la place des formats courts et des vidéos, vu que c'est quand même voilà, le cœur de ce qu'on fait. Donc comme vous voyez là, j'ai visuellement, je vous ai mis côte à côte une vidéo de l'esprit critique et une vidéo de Cogito. Et je pense que c'est assez flagrant, c'est presque un jeu des sept différences, où on retrouve en fait cette patte qui était importante finalement pour toute la communauté qui a contribué au financement du parcours. Donc visuellement, il fallait que, enfin, il y a eu cette volonté que ça ressemble à l'esprit critique et en même temps s'en démarquer. Et donc, par la tenue d'Alexis, on a fait un choix de quelque chose d'un petit peu plus décontracté, puisqu'on vise un public un peu plus jeune. Dans le décor, on a mis des éléments qui rappellent le contenu des leçons. Donc là, on a une affiche de propagande nord-coréenne. D'ailleurs, il est un peu fou, mais on a J'accuse, d'Émile Zola. Enfin, on a mis plein de choses comme ça dans le décor. C'est pas mal de récup', de dons, etc.
1984.
Ouais, on a 1984. Mais on voit aussi que même dans la façon dont on a posé le micro, la tasse, il y a aussi toutes ces similitudes qui sont quand même très très fortes. C'est fait par le même réalisateur. Le montage est extrêmement similaire à celui de l'esprit critique. Et donc ces vidéos aussi, elles servent d'introduction des chapitres et des leçons. Donc elles ont plutôt, d'un point de vue pédagogique, la même fonction qu'aurait un agent pédagogique en e-learning, c'est-à-dire d'accompagner l'apprenant dans le parcours, d'avoir une figure qui revient, qui va permettre d'humaniser aussi ce parcours, parce que c'est entièrement en ligne, où l'apprenant est seul face à son écran, et donc quand même d'avoir cette figure qui revient, d'avoir une personne qui lui parle. Et donc, ce qui est similaire aussi avec les réseaux sociaux, c'est ce côté incarnation. La manière qu'on va incarner une chaîne YouTube, là, c'est un peu l'incarnation du parcours qui se fait à travers de la figure d'Alexis Bellas, qui pose également aujourd'hui une grande question à Cogito, puisque Alexis a choisi de partir du projet pour se consacrer à sa chaîne YouTube, et également de retirer son image. Donc maintenant, en interne, on se retrouve à devoir refaire toutes ces vidéos et avec une réflexion sur comment on modifie un peu l'image aussi de Cogito, qui était très centrée sur cette personne. Je ne sais pas exactement combien de temps il me reste.
5 minutes.
Bon. Je vous montrerai donc dans ce cas-là un autre exemple de comment on utilise les vidéos courtes. Donc en fait, dans le parcours, on utilise également un ensemble d'extraits de vidéos courtes. Enfin, donc, comme c'est des extraits, c'est des vidéos courtes. Par exemple, là, j'ai une vidéo TikTok. On peut avoir des extraits de films. On a un extrait, par exemple, du film de Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, où on va avoir un discours d'Aragorn qu'on a utilisé dans une leçon où on parle du rapport à l'autorité. Et on essaye d'identifier différents types d'autorité. D'où vient l'autorité? On parle d'autorité charismatique au sens de Max Weber. Et donc là, on montre Aragorn qui fait ce discours. On dit, bon, quel type d'autorité est-ce qu'on voit? Donc là, c'est vraiment une fonction d'illustration, un document analysé. Là, je veux bien qu'on mette cette vidéo-là pour vous montrer, là, qui est vraiment dans la désinformation. Si on a le son. Je sais pas si on le met à côté. Bon, ça se plie. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez entendu, mais il y avait quand même le texte. Donc on a cette vidéo d'un compte qui s'appelle The French Drawatar sur TikTok, voilà, qui nous montre une scène où les images, on ne sait pas d'où elles viennent. Ça parle de son ressenti quand il est allé à Lisbonne. Il parle de l'immigration, mais tout, en parlant de tiers mondialisation. Voilà, on parle beaucoup de ressenti, d'impression, de tout le monde sait. Et plutôt que de pointer directement que c'est l'aspect des informations, nous, notre but, c'est d'essayer de développer des compétences d'analyse, des compétences informationnelles. Et donc là, on avait fait par exemple un QCM où on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire de cette vidéo? En disant ce compte, quand même, il est suivi par plus de 300 000 personnes. Est-ce que, on peut dire que le compte, il est réputé parce qu'il est très suivi? Est-ce que ces infos mériteraient d'être vérifiées? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelques red flags? Donc là aussi, dans le vocabulaire, on a essayé des fois d'utiliser un vocabulaire qui est pas mal utilisé par la jeunesse, où Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut tracer clairement l'origine des images montrées? Donc évidemment, c'est pas le cas. Et donc le but, c'est aussi comme ça, par ces petites questions, d'amener les apprenants à voir à quels indices ils doivent prêter attention. Et donc pas seulement apprendre à détecter la désinformation, mais aussi savoir quels sont les réflexes pour évaluer une information de façon générale et savoir aussi qu'est-ce qui peut être une bonne information. Et donc plus généralement, en fait, ce parcours, pour nous, il peut être une ressource pour faire face à la désinformation, parce qu'on a quand même plus de 5h30 qui sont consacrées à cette question de l'évaluation des informations. On essaye de... Nos objectifs pédagogiques, c'est d'apprendre à identifier, analyser la crédibilité d'une source, contextualiser les informations, repérer des signaux d'alerte d'une potentielle infox, par exemple... une information qui pousse à cliquer rapidement, vite, partager, avant qu'on le sache, le gouvernement ne veut pas que vous sachiez, tous ces éléments, on va essayer de les mettre en avant, on va parler aussi un peu de rhétorique, qui peuvent aussi être intéressants, parce que on va travailler sur les arguments fallacieux, les biais cognitifs, finalement ça se rejoint. Donc plein d'éléments et de notions diverses, où l'idée c'est justement d'armer intellectuellement les utilisateurs, qui sont surtout les jeunes, en tout cas dans l'idée finalement, dans nos utilisateurs, c'est pas forcément ce qui se retrouve. Donc essayer de les armer pour qu'ils puissent être un petit peu plus autonomes intellectuellement face à toutes les informations qui leur arrivent, que ce soit de la désinformation ou non. Donc voilà, donc tous ces éléments, ils peuvent aider, mais on a aussi bien sûr un ensemble de limites qui se posent, parce que comme on est une ressource en ligne, où ils sont seuls face à ce parcours, on peut pas forcément travailler aussi près qu'on le souhaiterait de leur pratique au quotidien. Il y a toutes les limites en fait, de l'outil numérique qui a des réponses automatisées et où finalement nous on est seulement en support quand il y a un problème. Donc voilà en tout cas ce qu'on a essayé de faire et comment on essaye à notre échelle en tout cas de participer à cette lutte contre la désinformation et toujours avec cette visée démocratique et même qui dépasse pour nous la désinformation et qui est plutôt l'esprit critique au sens large. Voilà, merci.
Donner la parole à notre dernière intervenante de la table ronde, donc Stéphanie Piquet-Jacquin. Voilà. Est-ce que tu préfères être là pour nous ? On sera peut-être plus confortable.
On voit les slides, donc ça ira. Merci pour cette invitation. Moi, je vais vous parler, je m'appuie surtout sur un événement qui a eu lieu à Guingamp, sous-préfecture et zone rurale. Zone rurale plus. Et qui avait pour titre, c'était un colloque qui s'appelait « Éducation à l'environnement, mieux informer pour mieux agir ». C'est un colloque qui s'est tenu le 11 mars de cette année et qui portait sur l'éducation aux médias et à l'information appliquée aux questions environnementales. Alors ce contexte environnemental, il est particulièrement intéressant parce qu'il oblige à sortir d'une approche qui est trop simple de la désinformation. Dans le champ environnemental, le problème, il n'est pas seulement de distinguer une information vraie d'une fausse. Il s'agit aussi de comprendre comment une information va circuler, comment elle est mise en récit, comment elle va produire de l'émotion et comment elle peut conduire à l'action ou au découragement quand il s'agit de questions écologiques. Autrement dit, la question, elle n'est pas seulement l'enjeu, il n'est pas seulement cognitif, mais il est vraiment social et politique. Et c'est là, à cet endroit, que les industries culturelles et créatives, elles vont jouer un rôle important. Non pas parce qu'elles rendraient automatiquement les publics plus critiques, mais parce qu'elles vont proposer des formats courts, des jeux, des expériences collectives. Et ces formes, elles peuvent devenir des supports qui sont puissants pour travailler la relation à l'information. Et au-delà, à la vulgarisation sur ces questions. En fait, ce que je voudrais défendre ici, c'est une idée simple, c'est un format créatif ou ludique ne forme pas parce qu'il est créatif ou ludique, il forme parce qu'il va organiser une expérience de déplacement du regard, du doute, de l'émotion. Il va déplacer la position du public face à l'information. Et les ateliers qui étaient proposés lors de ce colloque, ils permettaient d'observer cela, et c'est pour ça que c'est un cas plutôt intéressant. Ils proposaient pas seulement de transmettre des contenus sur l'environnement et les médias, ils mettaient les participants en activité. Et c'est cette mise en activité qui me semblait être un bon support pour penser les MI aujourd'hui. Alors, la première activité, il s'appuyait sur un escape game, climato-complot, qui visait à exercer l'esprit critique en faisant prendre conscience des biais utilisés par les arguments fallacieux sur le changement climatique. Et ce type d'atelier, il est intéressant parce qu'il ne se contente pas de dire au public « attention, il s'agit de fausses informations ». Il leur fait expérimenter les mécanismes de persuasion. Il fait comprendre comment certains discours fonctionnent, comment ils peuvent être séduisants, comment certains discours peuvent rassurer ou au contraire inquiéter. Et on ne travaille pas seulement sur le contenu de l'information, mais sur des opérations argumentatives qui vont rendre une information crédible ou non. Là, il y a un point essentiel. Former l'esprit critique aujourd'hui, ce n'est pas seulement apprendre à repérer l'erreur, c'est apprendre à comprendre aussi les conditions de l'adhésion à un discours. Un autre atelier portait sur l'autorité des chiffres. L'autorité des chiffres dans les médias. On proposait de travailler sur des formulations auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Quand on dit un Français sur trois, 78% des jeunes, ou l'équivalent de trois piscines olympiques. Ça, c'est des chiffres qui ont une force particulière, qui donnent une impression d'objectivité, de solidité, d'évidence, mais qui sont pour autant difficiles à vérifier et à interpréter. Cet atelier-là, il permet de déplacer une autre évidence, celle selon laquelle un chiffre serait naturellement neutre. Ça devient une forme médiatique. C'est visuel, un chiffre, c'est mémorisable, parfois spectaculaire. Ça peut éclairer, mais ça peut aussi orienter l'interprétation. Et là encore, les mines ne consistent pas seulement à dire « ce chiffre est vrai ou faux ». Ça consiste à se demander qui a produit ce chiffre, selon quelle méthode, quel contexte, pourquoi ce chiffre-là plutôt qu'un autre, etc. Troisième atelier, c'est un atelier d'écriture qui rappelait que l'esprit critique ne se construit pas uniquement à la réception. Ça se construit aussi dans la production, dans l'écriture. Et écrire, ce n'est pas seulement restituer une information, c'est aussi choisir un angle, organiser une pensée et un point de vue. Et là, l'écriture, elle oblige à rendre visibles les opérations de la pensée. Ça va obliger à passer d'une réaction immédiate à une formulation qui est construite. Ça va transformer un rapport qui est plutôt flottant à l'information en une responsabilité de celui qui va écrire. Un autre atelier, ça portait sur l'éco-anxiété. Faire avec l'éco-anxiété, explorons ensemble les méandres de l'information et de l'action. Ça proposait, à partir d'une activité ludique, de partager des stratégies pour agir sur l'éco-anxiété, celle des participants, d'abord avec eux-mêmes, et celle des publics qui vont accompagner dans un monde sûr et soumis à la désidée et sur-information. Et cet atelier, il introduisait la dimension affective. Et dans le cas de l'environnement, cette dimension, elle est centrale. Une information, elle peut être fiable et pourtant produire de la sidération. Elle peut être nécessaire et en même temps difficilement soutenable. Et en fait, on peut penser que l'AMI n'agit pas comme une neutralisation des affects, mais aussi comme une éducation à la traversée de ces affects-là. Puis enfin, l'atelier Le Fil de l'Info proposait une découverte express à partir d'un jeu pédagogique qui permettait de décrypter le système complexe de l'information, les acteurs, les liens, les enjeux de pouvoir et d'influence et les effets sur l'information. Ici, on va sortir d'une vision qui est individualiste. On ne va pas seulement demander à un individu de devenir plus vigilant face à une information isolée. On va lui permettre de comprendre l'écosystème qui produit l'information, qui la diffuse, qui la finance. Quels sont les effets des plateformes, quels sont les rapports de pouvoir. Et ça, c'est un point qui est fondamental. La désinformation, ce n'est pas seulement du mauvais contenu, c'est aussi comprendre l'organisation de la circulation. Et ces différents ateliers qu'on avait mis en place, qui étaient animés aussi par des médias indépendants bretons, et pas indépendantistes bretons, ça permettait, à travers des formats créatifs et ludiques, non pas de voir les choses comme des gadgets pédagogiques, mais vraiment comme des dispositifs d'enquête. Ça va transformer le rapport de l'information en situation. Et ça va permettre aux participants de manipuler, de comparer et surtout de discuter. Et donc la question essentielle, c'est qui sont les publics de ces ateliers? Et dans le cas du colloque de Guingamp, le public, il n'était pas prioritairement un public scolaire direct. Il s'agissait plutôt d'un public professionnel ou semi-professionnel, des acteurs de l'éducation à l'environnement, donc le RED, c'est le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, des médiateurs, des animateurs, des formateurs, des enseignants, des acteurs associatifs, des professionnels de la culture, des acteurs de l'éducation populaire ou de la santé, bref, des personnes qui sont amenées à accompagner ensuite des publics qui sont variés, et notamment, ce qui m'intéresse, des publics jeunes. Donc ça change beaucoup de choses, en fait, la diversité de ces publics-là. Et on n'est pas exactement dans une situation où un chercheur observe directement un atelier qui est mené auprès d'élèves dans une classe, avec un protocole qui est stabilisé, avec des entretiens et un suivi. On est plutôt dans une logique de formation et de relais. des professionnels, ils vont découvrir, expérimenter, ils vont discuter sur ces outils qu'ils vont pouvoir après réinvestir dans leur propre contexte. On peut passer à la suite. Merci. Et ce point, il est important parce qu'il va introduire un écart entre trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'outil tel qu'il est conçu. Le deuxième niveau, c'est l'outil tel qu'il est expérimenté par les professionnels lors de ce moment qui est fort, qui est un colloque, ou lors d'une formation. Le troisième niveau, c'est l'outil tel qu'il sera ensuite mis en œuvre auprès des jeunes publics, dans une classe, un centre social, une médiathèque, ça peut être un festival, une structure culturelle, un atelier d'études pop, ou un dispositif d'éducation à l'environnement. Or, ces trois niveaux, ils ne vont jamais complètement se superposer. Un outil peut être très pertinent dans sa conception, très stimulant pour des professionnels, et néanmoins produire des effets qui sont différents lorsqu'il est transporté auprès des collégiens, des lycéens, d'enfants plus jeunes, ou des publics qui sont éloignés des formes scolaires traditionnelles. Le contexte, il va changer. Le temps disponible change, la relation pédagogique change, les contraintes institutionnelles changent, bref, tout change, les atouts changent. Donc il faut être prudent. En tant que chercheur, on peut analyser la qualité d'un dispositif. On peut observer ce qu'il propose de faire à l'information. On peut observer ce qu'il propose de la ralentir, la déconstruire, la mettre en débat, la rendre manipulable. On peut analyser la manière dont les professionnels vont s'en emparer, les questions qu'ils posent, les difficultés que ça anticipe et les usages qu'ils projettent. Mais on ne peut pas, sans enquête spécifique, affirmer que ces ateliers transforment durablement le rapport de ces publics jeunes à l'information. Et c'est là, il me semble, un point à évoquer clairement. En fait, nous manquons souvent de temps, de moyens pour évaluer réellement l'impact de ces dispositifs. Non pas parce que l'évaluation elle est secondaire, c'est pas le cas, au contraire, mais parce qu'une évaluation sérieuse, elle demanderait des conditions que les projets, les colloques, les formations courtes ou les actions ponctuelles ne permettent pas de réunir toujours de réunir. Évaluer l'impact d'un atelier émis auprès des publics jeunes, ça suppose de suivre plusieurs dimensions. Il faudrait observer ce qui se passe pendant l'atelier, mais aussi ce qui reste après. Il faut comprendre que les jeunes y retiennent ce qu'ils vont utiliser, ce qu'ils transforment dans leur pratique ordinaire d'information. Il faudrait distinguer l'effet de l'outil, l'effet de l'animateur, l'effet du groupe, l'effet du contexte scolaire, celui de la répétition, ou au contraire celui de la séance unique. Et pour ça, il faudrait aussi éviter une vision trop simple de l'impact. L'impact, il ne va pas se mesurer seulement à la capacité de donner la bonne réponse à la fin d'un atelier. Un jeune, il peut avoir compris quelque chose sans être capable de le formuler immédiatement tout de suite après. Il ne peut pas modifier ses pratiques non plus tout de suite. Il peut déplacer légèrement sa manière de douter, de vérifier, de discuter, d'être sur les réseaux sociaux numériques. Et ces micro-déplacements sont importants, mais ils sont difficiles pour nous à mesurer. Et cela pose une question centrale pour la recherche. Comment objectiver les effets qui sont souvent différé et relationnel. Il y a aussi une autre difficulté, c'est que les ateliers émis sont souvent évalués par des indicateurs qu'on peut qualifier de pauvres. Le nombre de participants, la satisfaction immédiate, le sentiment d'avoir appris quelque chose ou pas, l'appréciation du caractère ludique de l'animation. Et ces indicateurs, ils ne sont pas inutiles, mais ils ne disent pas grand-chose de la transformation réelle des pratiques informationnelles. Et un public, il peut trouver un atelier super agréable, sans pour autant son rapport à l'information il soit durablement modifié. Et à l'inverse, un atelier peut être complètement déstabilisant auprès d'un jeune et produire un véritable déplacement du regard et de l'esprit critique sans que pour autant on puisse mesurer l'impact. Et c'est particulièrement vrai avec les formats courts. Leur force, c'est aussi cette ambiguïté. Ils captent l'attention, ils vont rendre accessible, ils vont permettre l'entrée dans un sujet complexe, mais ils peuvent aussi produire une illusion de la compréhension rapide. On a joué, on a compris, on a coché la case de l'esprit critique. Or, l'esprit critique, ça demande du temps, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut donc défendre les outils créatifs et ludiques, mais sans naïveté. Leur intérêt, c'est de créer les conditions de l'expérience. Ils sont utiles lorsqu'ils permettent de ralentir la réception, de rendre visibles les mécanismes de production de l'information, de mettre les publics en position d'enquête et de faire émerger les controverses. Et ça, c'est un autre point important. L'émis ne doit pas conduire à dire ce que tout se vaut. Développer l'esprit critique, ce n'est pas installer une défiance généralisée. Ce n'est pas apprendre à se méfier de tout le temps. C'est apprendre à construire des critères de confiance. Et dans le cas des questions environnementales, cette distinction-là, elle est décisive. Si l'émis se contente d'enseigner le soupçon, elle peut paradoxalement renforcer le doute climato-sceptique ou le relativisme informationnel. L'enjeu, c'est donc d'articuler doute méthodique et confiance raisonnée. On peut passer plus tard. Et à partir de là, je crois que les ateliers de Guingamp, ils nous apprennent trois choses. Premièrement, les outils créatifs et ludiques sont intéressants lorsqu'ils donnent une forme concrète à des opérations critiques. Identifier un biais, interroger un chiffre, comprendre la chaîne d'information et traverser une émotion. Deuxièmement, ces outils ne valent pas seuls. Ils valent par le dispositif qui les entoure. Le temps de discussion, la qualité de l'animation, la mise en lien avec d'autres savoirs, la possibilité de verbaliser surtout ce qui a été compris. Troisième point, il faut reconnaître l'existence d'un angle mort. Nous savons souvent décrire les intentions pédagogiques de ces outils, mais nous savons beaucoup moins documenter leurs effets réels, notamment lorsqu'ils sont utilisés auprès des publics jeunes. Et cet angle mort, il ne doit pas conduire pour autant à disqualifier ces ateliers. Ils doivent au contraire nous obliger à mieux articuler recherche, formation et terrain. Et ce que nous pouvons faire comme chercheurs, c'est accompagner la conception de ces dispositifs, analyser leur cadre, documenter les usages, aider à construire des critères d'observation qui sont plus fins, en un mot, travailler avec les professionnels sur ce qui se joue réellement dans les ateliers. Mais on doit accepter aussi de dire que ce que nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas toujours ce qu'un élève fera 3 semaines plus tard d'un atelier sur les chiffres dans les médias. Nous ne savons pas toujours si un jeu sur la désinformation va transformer durablement ses pratiques sur TikTok, Instagram, YouTube ou encore dans ses sociabilités et au-delà de ses sociabilités numériques. Nous ne savons pas toujours si une séance ponctuelle permet de modifier un régime de croyance. Et c'est précisément pour cela qu'il faut continuer à enquêter. Pour conclure, je dirais que ces formats courts ils peuvent être de véritables alliés pour la formation de l'esprit critique, mais à 3 conditions. La première condition, c'est ne pas les confondre avec les solutions rapides. Un format court, ça peut ouvrir une question, mais ça ne replacera jamais le temps long de l'éducation. La deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas les réduire à leur pouvoir d'attraction. Capter l'attention, ce n'est pas former l'esprit critique. C'est l'attention captée, elle va devenir une attention qui est travaillée par la suite. Troisième condition, penser les publics réels. Un outil ne va jamais circuler dans le vide. Il va passer par des professionnels, des médiateurs, des enseignants, mais aussi des contextes avec leurs contraintes, et puis des réappropriations par la suite. Entre l'outil qui a été conçu et l'expérience vécue par des publics jeunes, il y a toute une chaîne de médiation qu'il faut aujourd'hui nous prendre au sérieux. Enfin, ce type d'atelier montre que les ICC peuvent contribuer à l'éducation aux médias lorsqu'elles permettent de transformer l'information en expérience. Mais il montre aussi que cette promesse doit être accompagnée par une exigence de recherche. Observer, documenter, accepter que les effets de l'éducation sont souvent plus lents, plus fragiles et finalement plus difficiles à mesurer que les formats qui les rendent visibles. Je vous remercie. Merci.
Alors, je vais faire circuler le micro pour les questions.
J'en ai une pour commencer, peut-être. C'est toujours la première qui est la plus dure. En fait, c'est une question pour Stéphanie, mais qui pourrait peut-être aussi être une question pour Charlotte. Tu as utilisé la notion de déplacement. Qu'est-ce que ça recoupe exactement? Est-ce que c'est juste un peu métaphorique ou il y a bien cette idée que justement le jeu fait que peut-être on voit les choses autrement ou enfin qu'est-ce que ça parce que intuitivement je sens bien quelque chose, le prof que je suis sent bien quelque chose et puis il croit qu'on peut déplacer peut-être quelque chose, mais qu'est-ce d'abord, est-ce que c'est un concept d'ailleurs d'auteur en sciences de l'éduc ou pas, j'en sais rien. Enfin, voilà, parce que c'est la première fois que je l'entends dit comme ça.
Voilà. Alors, si c'est un concept, je ne l'ai pas croisé, donc non. Mais à creuser, t'as raison dans la dimension très métaphorique, parce que c'est aussi un constat fait depuis quelques années. Moi, je suis arrivée à travailler sur l'éducation aux médias vraiment par le biais de l'éducation artistique et culturelle. Parce qu'institutionnellement, maintenant l'EMI raccroche ces endroits-là à se demander ce que l'art et la culture faisaient à l'éducation aux médias, s'il y avait un rôle à jouer. C'est quelque chose dont moi je suis vraiment convaincue. Et en fait, le déplacement, c'est quelque chose qu'on opère tout le temps. Alors moi, je l'ai opéré dans mes recherches. On passe notre temps à se déplacer d'un objet, d'un angle, d'auteur en auteur. Mais force est de constater que je l'ai objectivé aussi lors de ces ateliers avec des professionnels où eux-mêmes sont soumis à cette contrainte-là. On demande aux acteurs éducatifs de se déplacer par rapport à des pratiques qu'ils avaient. C'est pas anodin, là, sur les éducateurs à l'environnement, de devoir penser les choses avec des outils comme de l'IA, de devoir retravailler sur des outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, de parler d'éco-anxiété pour un éducateur à l'environnement qui a 40 ans d'expérience. La notion d'éco-anxiété, elle n'est pas si vieille. Lui, quand on lui parle de l'éco-anxiété chez les jeunes, c'est quelque chose qui le déplace, parce que lui, il va parler de conviction, d'attachement, de foi, hein, ce qu'il défend. Donc ce déplacement, il va s'opérer, moi je le visualise comme une posture aussi, une épreuve de professionnalité. Donc effectivement, par contre, c'est merci pour cette perche-là, parce que c'est une piste à creuser, et je pense Charlotte aussi, oui. Toi.
Ouais, je la trouvais intéressante, et en plus ça fait écho à certains retours utilisateurs. On a eu des personnes... par exemple, qui l'ont fait, qui ont déjà un master, et donc c'est pas normalement ce public-là, et qui nous disent, mais c'est étonnant, parce qu'en faisant le parcours, c'est que des choses que je savais déjà, et en même temps, c'est la façon dont elles sont racontées, d'une certaine manière, la façon dont on tisse les liens, qui leur donne l'impression de permettre de développer leur esprit critique. Donc des gens qui disent, bah oui, je sais ce que c'est qu'un journaliste, je sais ce que c'est l'AFP, je sais tout ça, et en même temps, bah, je trouve qu'il y a aussi un déplacement même dans le format. Nous, par exemple, on va prendre l'extrait d'une vidéo TikTok, on la met dans un parcours pédagogique. Pour beaucoup, déjà, c'est inattendu parce qu'ils s'attendent à avoir des formats qui sont considérés comme plus légitimes, où on va parler de la presse, on va parler de choses comme ça. Ils vont dire non, on va partir de vos pratiques, on va partir d'une émission de jardinage de Julie à la télé. Et puis, on va aussi s'arrêter. Rien que ça, je pense que c'est un format court, tout va très vite. Là, on s'arrête, on regarde l'extrait et on est obligé de répondre à une question. Alors avec toutes les limites en classe, on a aussi fait un guide pédagogique pour les enseignants, on se dit, en classe, si vous avez cette possibilité, ne donnez pas les options de réponse que nous, on est obligé de mettre dans un QCM à cause du format technique, mais de laisser la question ouverte. On se pose la question, on s'arrête, on réfléchit, parce que des fois, c'est des fois ce qui manque un petit peu, surtout sur les formats courts. Avec aussi des fois le fait que le format court, et c'est une question qui m'est venue en préparant cette table ronde, c'est que le format court, on donne moins d'informations et donc moins de contexte, moins de choses comme ça, alors que c'est paradoxalement ce qu'on veut défendre pour une éducation à l'esprit critique. Et nous-mêmes, on se retrouve avec cette contrainte-là, moi qui était venue un peu d'au-dessus, de créer un parcours avec que des choses très courtes. Avec même le biais un peu universitaire, on a envie des fois de trop dire, d'être très exhaustif, et on se dit, oh là là, là il y a quand même beaucoup d'autres choses, là c'est quand même très simplifié, et en même temps, il faut bien commencer quelque part.
Il y a d'autres questions, je crois. S'il
y a quelqu'un d'autre, je laisse la place.
Non, on peut prendre deux questions.
Ouais,
la tienne est plus.
Il y en a une là-bas.
Voilà.
Première.
Okay. Je vais faire aussi. Denis, vous avez opposé original et technique, mais en fait, tous les. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire. Enfin, je comprends que dans une perspective journalistique, le modifier est comme du faux. Enfin, on est toujours considéré comme du faux, mais en fait, il y a du modifié qui n'est pas faux. Enfin, voilà. Donc, comment vous gérez éventuellement cette distinction? Ou est-ce qu'il faudrait la préciser? J'en avais d'autres, ça.
D'accord. Alors, une très grande partie de notre activité de fact-checking, c'est ce qu'on appelle c'est de la démystification, en fin de compte.
Ouais.
Hein, plus de 80%, c'est vraiment la démystification post-nouvelle. Donc on est vraiment axé sur prouver que c'est faux.
Ouais.
Après, effectivement, j'en ai parlé un tout petit peu, parce que quand je dis qu'on a une différence entre le message sémantique et le signal des objets, tous les objets multimédia qu'on voit sur Internet, ces objets peuvent avoir été modifiés sans que le sens du message ait été altéré. Et c'est là où c'est très difficile. Vous avez, juste pour donner un exemple qui peut vous paraître visuel parce que vous l'avez probablement vu, vous avez une photo d'un soldat israélien en train de faire fumer une statue de la Vierge qui est sortie il y a peu de temps, là, dans le conflit au Liban. Et cette image-là, on en retrouve 5000, à peu près 5000 indexées sur Google. Et cette image, on la retrouve très rapidement upscale, c'est-à-dire agrandie, avec un agrandissement de format fait par l'IA. Donc l'image reste identique, mais elle trouble quelque part, parce que quand on la passe dans des outils, on nous dit c'est de l'IA. Mais c'est exactement la même image que celle qui est publiée par le Time of Israel, par exemple. Et donc l'image, elle n'est pas fausse d'un point de vue sémantique, mais elle est altérée d'un point de vue traitement des signaux. Donc pour des gens qui travaillent sur de la computer vision, hein, c'est-à-dire la vision par ordinateur, pour eux c'est faux. Pour eux, l'image est altérée. Donc quelque part, le signal numérique est falsifié. Par contre, pour un être humain qui regarde l'image, c'est la même image que celle qu'on a vue publiée. Donc elle n'a pas forcément été altérée. Donc on joue aussi sur ce tableau-là. C'est-à-dire qu'on si on veut démontrer que quelque chose est faux, ça peut être basé, on va pouvoir utiliser éventuellement le traitement du signal numérique pour démontrer qu'il y a eu des altérations, mais c'est aussi l'altération évidemment sémantique de l'image, qu'est-ce qui a été modifié dans l'image, qui fait que cette image a été altérée. Après, y compris, alors en agence de presse, on a des normes très ferme en termes d'édition d'image, mais il peut y avoir parfois un rajout de luminosité ou des...
Il y a eu plein de polémiques.
Il y a eu des polémiques.
Alors, sur des prix, même sur des images primées.
Absolument. Mais bon, il y a des choses qui sont tolérées en termes d'ajustement de visuel de l'image, mais qui ne sont pas des altérations profondes du message sémantique qui est délivré par l'image.
Bonjour, merci beaucoup.
Ah, vous avez un micro, c'est...
Ouais, je vous remercie parce que ça fait une séance de NI. On va prendre le portable de Gérald Ford. Après, une petite vidéo courte pour vous expliquer pourquoi on y croit. Et le tout analysé par la recherche. Et je pense que c'est ça, les formats courts sont des alliés. Est-ce que vous voyez toutefois des limites au tout numérique, tous ces parcours, ces QCM, des choses comme ça? Est-ce que c'est les limites et la complémentarité qu'on peut en avoir? Merci.
oui, je pense qu'il y en a énormément. Déjà, le fait qu'il y a les contraintes déjà techniques qui font que, déjà, avec le numérique, on ne va pas parler à tout le monde, on va seulement parler à une partie de la population. Ça demande même des compétences numériques qui ne sont pas toujours évidentes. Là, par exemple, je vois qu'en collège, les élèves ont de plus en plus de mal à utiliser le clavier parce qu'il y a moins d'habitude d'utiliser l'ordinateur, le clavier. On est beaucoup plus sur des usages tactiles. Donc, bah rien que ça, en fait, il y a des fois cette frontière-là. Pour des seniors, ça peut aussi être compliqué. Donc déjà, il y a quel public on touche avec du numérique, il y a quel numérique, il y a les contraintes des outils. Comme je disais, nous, on est sur une plateforme, on ne peut pas faire de questions ouvertes. Parce qu'on ne peut pas les traiter. Donc ça enlève quelque chose. Il y a la dimension affective. Être seul face à un ordinateur, face à son parcours, ça n'a absolument rien à voir que de pouvoir discuter de ses usages. Là, on était en train de créer un parcours IA et esprit critique. Je me dis, mais le plus intéressant, c'est de faire des ateliers, de faire en sorte que les personnes puissent parler de leurs usages. Comment concrètement est-ce qu'ils s'adressent, quels IA est-ce qu'ils utilisent, quels usages ils en ont, qu'est-ce qu'ils ont remarqué. Et des fois, c'est aussi par la discussion collective aussi qu'on peut toucher. Et que là, il y a ce côté expérientiel qui est complètement différent. Donc oui, en fait, je pense que les limites, elles sont énormes, mais comme n'importe quel format, ou dans tous les cas, on ne pourra jamais tout faire.
À jouer la complémentarité.
Oui.
Dernière question et après on fera la chose.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je vous rends juste.
Alors si, ceux qui posent des questions peuvent se présenter, ça sera peut-être plus pertinent.
Martin Pierre, formateur en éducation aux médias, créateur du jeu.
D'accord, merci.
Et Maria Zagré-Pinet, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication. Je suis en train de finaliser ma thèse sur la phase d'écriture sur les journalistes et les mis, et je suis aussi journaliste. Et moi j'avais une question sur la question de l'évaluation. Et à toutes les deux, en fait, je voulais savoir si d'abord vous aviez imaginé un processus d'évaluation. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 10 QCM, mais est-ce qu'il y en a un global à la fin? Et est-ce que, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et puis vous, est-ce que du coup, vous avez imaginé des processus d'évaluation ou est-ce que vous travaillez sur ces questions-là?
Alors, au début, nous, on n'en avait pas. C'était une volonté de la directrice exécutive de justement créer un décalage par rapport à l'école, de dire, en fait, là, on est en train... C'était l'idée de... On essaie d'entraîner son esprit critique comme si on allait à la salle de sport, mais intellectuelle. Et donc, on s'entraîne, on avait le droit de refaire les exercices autant de fois qu'on veut. On n'est pas perdant, finalement, notre corps, il est pour nous-mêmes et il n'y a pas de notes. Et là, on est en train d'en remettre parce que là, c'est la demande du cadre scolaire et de l'enseignement supérieur qui, eux, en fait, ont ajouté des crédits sur le fait de suivre ce parcours et qui nous disent, nous, on a besoin de savoir, on veut avoir le temps que les étudiants ont passé dessus, on veut qu'il y ait une note, donc on est en train d'en remettre. Et pour l'évaluation en général, on avait commencé à travailler avec deux chercheurs, Denis Caruiti et Jaïs Trojan, sur un protocole d'évaluation. Donc là, on l'avait fait pendant la phase où on était en train de créer le parcours. Et on commençait à avoir des résultats déjà encourageants. Eux, ils n'avaient pas utilisé des échelles psychométriques, notamment sur l'adhésion aux croyances complotistes, sur notre partie sur la désinformation. Et ils voyaient qu'il y avait quand même un effet significatif, même s'il était léger. Mais juste après, donc ça posait des questions sur le temps long, qu'est-ce que ça reste. Et voilà, nous, on attendait d'avoir terminé le parcours pour ensuite refaire une évaluation en disant des élèves qui ont fait tout le parcours en entier, est-ce que ça change, qu'est-ce qui change. Mais là, le problème, c'est les contraintes, ce qui a été évoqué d'ailleurs en introduction. On n'a pas les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes priorités. Donc moi, en interne, j'aimerais bien qu'on le fasse, mais on n'a toujours pas repris ce projet-là.
La docteur, elle est marquée.
Alors, il nous reste 2 minutes pour une petite question. Oui,
je vais juste compléter la réponse. Au point de vue de la recherche, nous, on réajuste vraiment parce qu'on avait commencé par enquêter sur les usagers pour après se déplacer vers les praticiens, les animateurs d'ateliers, les journalistes, pour comprendre un peu quelles étaient les logiques. Alors, c'est une recherche qui est en cours. Hein. Je suis partie d'un projet de recherche qui s'appelle le DevMap qu'on mène avec des praticiens en Bretagne. Où on va mettre les praticiens en recherche. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs de terrain pour qu'ils nous emmènent, nous, chercheurs, sur le terrain auprès des publics, parce qu'on a pu objectiver le fait qu'il y a différentes strates, différents niveaux, que le ponctuel, on va avoir des données, des indicateurs qui sont vraiment très ponctuels, qui vont surtout générer de la frustration, on ne va pas se mentir, au niveau de la recherche, c'est pas suffisant. L'idée d'aller vraiment sur le terrain de manière progressive, penser la recherche sur du temps long, je pense que c'est assez important, et expérimenté. Donc c'est vraiment des recherches qui sont menées en ce moment, en cours. On en reparle dans une trentaine.
Merci beaucoup. Je crois que Flore a une petite annonce à faire.
Oui, absolument. C'est la pause. On va faire une pause.